Radio J.
Léa Moscona.
Par la racine, c'est le dernier roman de Gérald Tenenbaum, paru aux éditions Cohen et Cohen. Un formidable roman touchant, émouvant, qui met en scène un duo. C'est un duo au cœur d'une enquête, formé par Samuel et Luce. Et c'est ce roman qui vient d'être sélectionné dans la première sélection du prix CAS 2023, qui vient d'être dévoilé justement. Bonjour Gérald Tenenbaum.
Bonjour Léa.
Alors tout comme votre avant-dernier roman, l'affaire Pavel Stein, toujours édité aux éditions Cohen et Cohen, c'est encore un duo, j'allais dire, un duo de personnages qui sont au centre de l'intrigue, mais à la différence de votre avant-dernier roman, on sent, Gérald Tenenbaum, une implication très forte de votre part. Est-ce que je me trompe ?
Pas du tout, pas du tout. C'est vrai que c'est un roman qui vient des profondeurs, je dirais.
Oui. Alors peut-être pourriez-vous résumer l'intrigue pour les auditeurs.
Alors, Samuel Villard est un écrivain particulier. À la suite de déboires qu'il a eu avec des éditeurs, il est devenu autobiographe pour les autres. Il raconte, il écrit des autobiographies imaginaires. Et son père, qui vendait des vêtements, appelait ça un rapiéçage de vie et avait peu d'estime pour le travail de son fils. Le père meurt et Samuel le retrouve à l'EHPAD. On lui donne une boîte en carton dans laquelle il y a quelques affaires de son père. Il hésite à l'ouvrir et puis un jour, il se décide, il ouvre la boîte. Et à son grand étonnement, il trouve une note manuscrite pour Samuel quand le temps sera venu. Et là, avec un numéro de téléphone. Et il se décide un jour à appeler ce numéro. Et là, sa vie bascule. Luce, une bibliothécaire de l'Institut Rachid de Troyes, lui commande une nouvelle autobiographie, parce qu'elle vise un poste au YIVO à New York. Mmh. Et ce travail implique une enquête qu'ils vont faire à deux. Leurs histoires vont
se croiser,
converger
voilà. Absolument. Alors Samuel et Luce vont partir dans une enquête. Ce sera le prétexte à différents voyages. On va voyager à Dijon, à Grenoble, d'autres villes encore pour essayer de recoller les morceaux, pour essayer de comprendre tous les indices qu'ils trouvent sur leur passage et puis rencontrer aussi des personnages importants. Tout cela pour découvrir un peu leurs origines. On a Samuel, on va pas révéler la suite, mais Samuel qui doit découvrir un nouveau visage de son père, et puis Luce qui veut comprendre aussi quelle est son origine, qui est son père, qu'elle ne connaît pas, etc. Alors, Samuel, vous l'avez dit, a un métier qui est assez étonnant. C'est un écrivain d'autobiographie fictive. Dans le livre, ça, j'imagine de l'importance, cela. C'est un métier central dans ce livre. Il aurait pas pu être médecin ou, je ne sais pas, moi, prof de gym.
Tout à fait. Le livre est une réflexion permanente sur le travail d'écriture et c'est aussi un plaidoyer pour la fiction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont de l'autofiction, de l'autobiographie. On veut absolument que tout soit une histoire vraie. Et là, Samuel, on peut dire qu'il pétrit le réel pour fabriquer de l'imaginaire.
Oui. Alors justement, vous parlez de fiction. Moi, j'ai une question. Alors vraiment, c'est une question non pas intime, mais qui m'a trotté à la fin du livre, parce que c'est à la fin du livre que l'on découvre l'expression par la racine, lorsque Samuel est chez sa sœur Clara et elle lui apprend quelque chose au niveau de ses plantes. Mais est-ce que c'est réel ça ? Alors je l'ai, c'est page 120. Je voudrais juste vous lire cette c'est 120, me semble-t-il. Je crois que je me trompe. Je me trompais de livre. Vous voyez, j'étais dans l'affaire Pavel Stein. Mais dans le page 120, il y a un petit duo avec sa sœur et où elle lui apprend que finalement ces plantes ne sortent pas. Hein. Les tiges, les embryons de feuilles vont vers le bas et qu'elles poussent par la racine. C'est vrai ça ?
Alors c'est pas vrai, mais ça pourrait devenir. Mais c'est vrai que la question. de savoir comment une graine plantée en terre sait de quel côté est la lumière, de quel côté elle doit pousser, c'est une question que les botanistes ont mis des centaines, voire des milliers d'années à élucider.
Ah, c'est étonnant.
Je me suis un jour demandé, enfin je me suis posé cette question, et je me suis dit, ben oui, et notre monde va tellement à la dérive, et si un jour les plantes décidaient de ne plus aller vers la lumière et de pousser par la racine.
Oui, et d'ailleurs il y a une petite réflexion qui est assez profonde, où il lui répond, c'est comme si elle ne voulait pas savoir ce qu'il y a au-dessus, quitte à en mourir d'étouffement. C'est central, non, comme phrase dans le livre?
Oui, oui, tout à fait, oui, c'est aussi une réflexion sur notre monde, tel qu'il va.
Oui, oui. Mais alors, le thème, donc les sons de sable, j'ai eu ma réponse, je suis bien contente, parce que je me posais la question, mais est-ce que ça se peut, hein,
ça,
finalement?
Ça pourrait, parce que le phénomène est extrêmement délicat, donc il ne suffirait pas grand-chose pour le détraquer.
D'accord. Eh bien, là, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend. Alors, par ailleurs, dans ce livre, évidemment, il y a ce travail du deuil. Il se trouve que Samuel a une sœur et un frère. Ils sont trois orphelins. Et pourtant, c'est Samuel qui est déterminé. Comment vous l'expliquez? Déterminé vraiment à trouver le secret du papa.
Alors, dans la fratrie, eh bien, il y a la sœur, Clara, qui porte le deuil comme on porte un parfum, c'est-à-dire qu'elle le porte sur la peau, ça l'enveloppe, mais il n'y a pas de problème particulier. Il y a Jacques, qui est l'aîné, le frère intermédiaire, qui était un peu le souffre-douleur de son père et qui a choisi de s'évader et il navigue sur un bateau de commerce, sur un porte-conteneur. Mmh. Et Samuel, lui, il a finalement un compte à régler avec son père, puisque son père dénigrait son travail. Il a toujours eu des relations compliquées, des relations qui sont à la fois affectueuses, mais qui sont aussi difficiles. Et son père qui dénigrait son travail, c'est quelque chose qui lui est resté... qui lui est resté sur le cœur, je dirais.
Eh oui, bien sûr. Donc, on recherche, même après le décès du papa, finalement, on a encore des questions en suspens, on recherche peut-être une certaine reconnaissance. Est-ce que, justement, ce livre, c'est tout le cheminement qui se passe pendant le deuil pour trouver une certaine résilience?
Exactement, c'est ce livre, en fait cette année, puisque le livre se déroule sur une année complète, cette année c'est une conversation entre Samuel et son père disparu, une conversation qui est rythmée par la musique, parce que son père était un grand mélomane, et petit à petit les relations de Samuel à son père se modifient au travers de cette enquête et de l'image paternelle qui évidemment est modifiée par l'enquête.
Oui, alors vous parlez de la musique, j'ai pensé aussi à un scénario de film, ce livre qui est magnifiquement écrit, bien orchestré, on a le sentiment que c'est presque un scénario, puis il y a cette musique, ça pourrait être la bande originale du film, de Debussy, Mendelssohn, Mozart, il y a d'autres encore, énormément de musique dans cet ouvrage, ça s'est voulu pour mettre en scène, n'est-ce pas? C'est un peu un travail de metteur en scène, ce que vous avez fait.
Oui, c'est tout à fait. C'est musique, rythme, l'enquête et la conversation. Et à chaque fois que Samuel écoute un morceau, il se souvient de ce que son père en disait et il ajoute ses propres...
Vous êtes avec nous, Gérald de Tenenbaum? Oui, ça s'est interrompu. Oui, on vous écoute. Finissez.
De sa disparition.
Alors, c'est un ouvrage qui est prenant, hein, parce que c'est vraiment sous la forme d'une enquête. Jusqu'aux dernières pages, on ne sait pas ce qui va être révélé. Donc, c'est quand même très haletant, j'allais dire, cet ouvrage. Où est-ce que vous avez eu une inspiration particulière? Parce que vous êtes un auteur très prolifique. Pour vous présenter un peu, Gérald Tenenbaum. Vous êtes chercheur en mathématiques, et là, c'est vraiment tellement étonnant quand on l'apprend, chercheur en mathématiques pure, et en même temps, écrivain. Et dans ce travail d'écriture, vous avez un peu touché à tout, hein. Théâtre, poésie, essais, nouvelles, et puis roman. Quand on écrit un roman et surtout une enquête comme celle-là. Quelle est la différence avec les autres écrits?
Vous voulez dire avec les autres avec
vos
les
autres écrits,
écrits
le, oui, le théâtre, la poésie, les essais. Oui.
Ah oui. Bah écoutez, la comment dire, l'écriture d'un roman, c'est d'abord de rendre compte de la multiplicité des sens, de la polysémie de la création, et puis de l'ambivalence des sentiments. Pour moi, on navigue toujours en eau trouble. La littérature, au contraire des mathématiques, c'est l'art de voiler le réel, d'où le plaidoyer d'ailleurs pour la fiction.
Alors, c'est vrai, vous faites une différence avec la science, sauf que dans votre écriture, il y a quelques termes quand même, démonstration, j'en ai noté quelques-uns comme ça, je les ai pas écrits, mais il y a des mots qui nous rappellent aussi les mathématiques. Et puis par la racine, moi j'ai pensé racine carrée, parce qu'il y a deux,
oui,
il y a
sûr,
un duo.
Oui, tout à fait. Oui,
vous voyez,
oui,
donc quand
oui.
même, votre, j'allais dire, votre formation à l'origine, hein, j'imagine que vous avez commencé par les maths. Ça vous colle à la peau, hein?
Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que les termes mathématiques sont souvent, comment dire, importés depuis le langage courant.
Oui.
Et c'est vrai que des mots comme racine, comme spectre, comme corps ou comme anneau sont des termes mathématiques. Mmh. Et en même temps, ils ont un sens très fort, ils résonnent très fort dans le langage courant.
Oui.
Alors,
d'ailleurs, un problème mathématique, s'il ne se comprend pas avec les mots, ne peut pas être résolu, n'est-ce pas? Les maths, c'est du français d'abord.
Les maths, c'est du français, bien sûr, et souvent, d'ailleurs, les difficultés des enfants qui en cours de mathématiques proviennent de difficultés de la langue.
Mmh. Oui, de comprendre les termes. Et c'est vrai que là, il y a une interpénétration du français vers les maths, des maths dans le français, dans votre livre. Et puis, c'est très, très bien aussi ficelé. On n'est jamais perdu. Il y a les dates, les lieux. Puis alors, il y a une description. Vous accordez énormément d'importance aussi à la description des lieux, des faits. Des lieux et des faits.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que la littérature, c'est quelque chose qui, pour moi, s'ancre dans l'espace. Mmh. Et les lieux, les villes, oui. Les noms des rues. Les noms des rues, ce sont aussi des évocations des disparus. Et comme bon, tout le livre est conçu sur la question du dialogue avec les disparus, mmh. Eh bien, les noms des rues, ce sont des... évoque aussi les personnes dont on souhaite se souvenir. Mmh. C'est peut-être un des premiers éléments de la mémoire collective.
Oui. Vous diriez que votre roman Par la racine est un roman positif? Est-ce que c'est un roman optimiste?
Est-ce que c'est un roman, j'ai pas compris.
Optimiste.
Optimiste. Ah oui, tout à fait. Oui, mm-hmm. oui. C'est optimiste parce que finalement, on transcende la disparition d'un être cher et on arrive à modifier la relation qu'on avait avec lui au-delà de sa mort.
Oui, c'est-à-dire que tout votre roman est un cheminement finalement, mais c'est un cheminement dans l'esprit, mais c'est également, tout à l'heure on parlait des voyages, c'est un cheminement dans le concret, hein, puisque on part de Dijon, va à Grenoble, ensuite Nice, ensuite Gênes, etc. Donc il y a à la fois le matériel, hein, la matérialité qui rejoint la spiritualité, si j'ose dire.
Oui, le voyage initiatique dans l'espace accompagne le voyage intellectuel, le voyage émotionnel que font les personnages.
Oui, alors ma question peut-être ce serait autour de ce duo. Pourquoi avez-vous eu besoin d'un duo? Parce que finalement, vous auriez pu écrire le roman avec un héros, Samuel Villard, qui fait son travail lui-même, son voyage lui-même, pour lui-même, vous voyez. Et quelle est la, si vous voulez, la valeur ajoutée, pour parler aussi en mathématiques, la oui. valeur ajoutée du duo par rapport à un héros seul.
Alors, le père, en fait, s'est fait une promesse à lui-même, 39 années plus tôt que le début de l'histoire, mmh. parce que toutes les dates des chapitres sont toutes par rapport au jour du décès. Mmh. Le père s'est fait une promesse à lui-même. Et cette promesse a déclenché un phénomène qu'on appelle dans la tradition kabbalistique juive, qu'on appelle libur. Alors, libur, c'est une forme de possession temporaire qui est toujours positive, justement, qui est toujours pour le bien et non pour le mal, contrairement au dibou qui est beaucoup plus connu. Et cette libur, c'est cette promesse qu'il s'est faite à lui-même, c'est que Samuel et cette personne, Luce, pourraient un jour se rencontrer. Donc le fait mmh. qu'il y ait ce duo oui. est essentiel, puisque c'est la continuation de la promesse que le père s'est faite.
Et ce qui est terrible, c'est que il veut cette rencontre, mais après sa mort, hein, parce que dans cette boîte, oui. hein, qui est au cœur de l'histoire, dans cette boîte, il y a ce mot où il est écrit. Moi, ça m'a touché au cœur. Quand le temps sera venu. Quand le temps sera venu, c'est-à-dire en quelque sorte après ma mort, bien évidemment.
Oui, bien sûr. Oui, puisqu'il ne lui a jamais donné ce mot de son vivant. Mais il l'a accroché à un dossier sur l'affaire Touvier que son fils avait rassemblé pour lui. Et Samuel, lui, s'était toujours demandé si ce travail avait été apprécié ou non par son père. Et là, en ouvrant la boîte, eh bien, il voit que oui, que ça l'a été, mais le père ne l'a jamais dit.
Ah, c'est terrible, hein, tout de même. C'est quand même terrible oui. qu'un parent de son vivant ne puisse pas dire c'est bien, mon fils.
c'est
vous voyez ce que je veux dire.
C'est
touchant ce que vous racontez.
Il suffirait souvent de pas grand-chose.
Oui, il suffirait de pas grand-chose, juste de dire je t'aime, peut-être du vivant. Et c'est un peu ça aussi dans votre roman, Gérald Tenenbaum. C'est les non-dits, hein, ce qu'on dit pas du vivant et ce que finalement l'enfant veut absolument trouver, même après la mort, cette quête, hein, parce que c'est une enquête, mais en vérité, c'est une quête.
Oui, tout à fait, et c'est vrai que c'est une quête qui va... alors, au départ, il part sur la vie de Luce et il veut élucider la filiation de Luce, qui est le grand problème de... Alors, ils sont deux orphelins, finalement, mais mm-hmm. de manière extrêmement différente. Mm-hmm. Et puis, petit à petit, eh bien, il va retrouver les traces de son propre père dans cette enquête.
Oui. Oui, c'est ça. C'est ça qui est incroyable. On a vraiment ce destin croisé. Et bien sûr, en toile de fond, il y a quand même une histoire d'amour. C'est pour ça que je vous dis que c'est très cinématographique, hein, ce que vous avez écrit, je
oui,
trouve.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. On me le dit souvent sur la plupart de mes livres. Oui. On dit souvent que ça pourrait faire des films incroyables.
Bah, écoutez, moi, en tout cas, en fermant la dernière page, je me suis dit, j'ai envie de voir le film maintenant.
Avis aux amateurs.
Voilà. À bon entendeur. En tout cas, c'est un magnifique roman, Par la racine. Vous étiez venu nous voir sur Radio J pour votre roman l'avant-dernier, hein, l'affaire oui. Pavel Stein, là aussi avec ce duo, là aussi des voyages et là aussi de l'amour et du cinéma. Je rappelle donc votre titre, Par la racine, donc ce roman magnifique aux éditions Cohen et Cohen. Et puis, si on veut vous rencontrer, on a de la chance parce que il y a une date, hein, la prochaine date, c'est le 1er février, Gérald Tenenbaum. 1er février, ce sera une signature à la librairie Écarlate, c'est bien ça?
Voilà, dans le 14e, tout à fait.
Dans le 14e arrondissement, le mercredi 1er février, à partir de 19h. On peut aller donc à la librairie Écarlate pour vous rencontrer et puis vous faire signer aussi les livres. C'est toujours un bonheur d'avoir l'auteur des romans que l'on lit et qui nous ont donné beaucoup de plaisir. Merci infiniment, Gérald Tenenbaum, d'avoir été avec nous. J'espère
merci. Merci à vous,
très bientôt
Léa,
voir votre film votre livre sur les grands écrans. Merci infiniment. Au revoir.
Merci beaucoup. Merci à vous.